din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu și tine. Să luăm aminte, în vremea aceea luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor. Și-l vor osândi la moarte și-l vor da în mâna păgânilor, care-l vor batjocori, și-l vor bate și-l vor scuipa și-l vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, și au zis: Învățătorule, vrem să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce vreți să vă fac? Iar ei au spus: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și unul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea și voi. Și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi-este îngăduit să dau, decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan. Iar Iisus, chemându-i la sine, ne-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi să nu trebuie să fie așa. Și care dintre voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru? Și care va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie slujitorul tuturor? Pentru că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți.
Lectură du Saint Evangile selon Saint Marc. Soyons attentifs en ce temps-là. Jésus prit avec lui ses 12 disciples et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils vont le bafouer, cracher sur lui, le flageller, le mettre à mort. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui répondirent: « Nous le pouvons. » Jésus leur dit: « La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-même baptisés. » Quand assiégé à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ces places sont déjà réservées les 10 autres qui avaient entendu, conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. »
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais parler en français pour ceux qui ne comprennent pas. Vous pouvez vous mettre à côté de quelqu'un qui... Celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Voilà ce que l'Évangile nous met en face aujourd'hui, l'Évangile selon saint Marc. Je commencerai par une parole d'un père qui dit « Celui qui prie est le théologien, et le théologien c'est celui qui prie. » Vous savez, la vie dans l'Église, c'est un jeu, c'est un enjeu entre la vie et la mort, entre l'incorruptibilité et la corruptibilité, entre l'échec et l'accomplissement. On vient à l'Église parce que parfois on ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église, mais on vient à l'Église parce qu'on sent qu'ici, c'est un sort de l'hôpital. Ça peut paraître un peu choquant l'expression « l'Église qui est l'hôpital », mais c'est comme ça. L'Église, c'est un hôpital pour chacun d'entre nous, pour guérir nos plaies, nos péchés, nos manquements. Je me demande parfois pourquoi nous, les orthodoxes, nous ne lisons pas autant la Bible. Il faut reconnaître qu'on ne lit pas la Bible beaucoup. On ne lit presque pas du tout la Bible. Et je me demande pourquoi. Je veux vous dire que ce n'est pas une critique. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas la Bible? Donc tout d'abord, l'Église est un hôpital et les orthodoxes, ils ne lisent pas beaucoup la Bible. Quel est le rapport entre les deux idées? Parce que pour moi, pour vous, la Bible, ce n'est pas un objet qui doit être étudié. Pour nous, pour moi et pour vous, la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu a envoyée à chacun d'entre vous. Et quand on garde une lettre d'amour de quelqu'un, on ne fait pas des études scientifiques sur ce lettre d'amour. Quand le Christ nous dit, très clair, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Le message, c'est clair. On n'a pas besoin des études sur ça. Il faut s'humilier, il faut laisser l'autre qui est devant nous, qu'il pousse, pour qu'on puisse pousser ensemble et pour qu'on puisse devenir des théologiens. C'est ça, être un théologien. Écouter la parole de Dieu comme une parole d'amour qui est envoyée vers nous. Et si vous voulez la réponse pour ma question, pourquoi est-ce qu'on ne lit pas la Bible? Je dirais, bon, c'est pas un conseil de ne pas lire la Bible, il faut quand même lire la Bible, mais il faut la lire d'une manière brillante, si vous voulez. Il ne faut pas lire la Bible comme un autre livre. Il faut lire la Bible toujours en prière, en état de prière. Seigneur Jésus-Christ, ouvre-moi l'intelligence de ma pensée pour comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Ouvre-moi l'intelligence de mes pensées pour que je comprenne qu'est-ce que c'est devenir un serviteur pour les autres. Ouvre-moi l'intelligence spirituelle pour comprendre ce qui signifie te faire l'esclave de tous. Ouvre-moi l'intelligence de ma pensée pour comprendre qu'est-ce qui signifie que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est ça la théologie. Et je reviens, le théologien est celui qui prie, et celui qui prie est le théologien. Et comme ça, on voit que notre vie dans l'Église, c'est une vie qui va vers le vindicare, vers la guérison. C'est toujours une vie entre la mort et la guérison. Entre la guérison et la mort, entre la mort et la guérison. Pour ça, par exemple, on n'a pas dans l'Église des montres sur le mur. Vous voyez, il n'y a pas de montres sur le mur. Pourquoi? Parce qu'on entre dans l'Église dans un autre temple. On entre dans le temple liturgique qui n'est pas la même comme le temple, je ne sais pas, on fait la liturgie 40 minutes et après on prend le métro. Le temple liturgique, c'est autre chose. Au Mont Athos, je me souviens, au Mont Athos, il n'y a pas une heure pour commencer les offices. Pour nous, l'homme moderne, c'est un peu la folie, ça, parce qu'on ne sait pas quand l'office commence. Mais Mont Athos, les moines, ils n'ont pas une heure. C'est le starets qui vient, il dit, voilà, on va au vêpre. Il regarde le soleil, c'est l'heure de vêpre, on va tous au vêpre. Et ils n'ont pas de montre dans l'église. Nous aussi, on n'a pas de montre sur le mur. Pour ça, pour qui, pourquoi, pour ça. Pour qu'on sente qu'on entre dans une autre manière de récepter les choses. On ne regarde pas, quand on fait la liturgie, on ne regarde pas le montre. Parce que c'est le temple de Dieu qui est au-delà du temple, qui est au-dessus du temple, qui est au-delà de tout ce qui peut nous stresser, nous faire courir. Donc, les idées principaux. Les orthodoxes ne lisent pas la Bible. Mais ils ne lisent pas la Bible, pas par ignorance, mais ils ne le lisent pas beaucoup parce qu'ils le voient comme une lettre d'amour. Mais je répète, je vous conseille de lire quand même la Bible, mais d'une manière priante. Tout d'abord, l'Église, c'est un hôpital où on vient être guéri. Après, il faut s'humilier dans cette venue dans l'Église. Il ne faut pas chercher la première place dans l'Église. Rappelez-vous de Vamesh aussi pharisée, le publicain qui est resté au fond de l'église et qui disait, voilà Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison. Et si je peux vous conseiller encore une chose, essayez de vous préparer pour la venue à l'église, de prendre un peu de silence en vous. Quand vous entrez dans l'église, imaginez-vous, mais ce n'est pas une imagination, c'est une réalité, mais au moins, imaginez-vous que vous entrez dans la maison de Dieu, où il faut être dans le silence du cœur tout d'abord, dans cette tranquillité où on est nous devant le Seigneur, et le Seigneur devant nous. Et le Seigneur nous dit, voilà, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Le Seigneur nous dit toujours, voilà, c'est un livre entier ici, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement cet évangile qui représente la parole de Christ. Vous avez toute la tradition de l'Église, vous avez toute l'expérience de l'Église que vous pouvez, dans laquelle vous pouvez immerger pour comprendre c'est quoi ce jeu entre la vie et la mort,
entre la incorruptibilité et la corruptibilité, entre l'ascension et l'échec. Et j'ai encore une chose à vous dire. Quand j'étais à Bucarest, dans l'église où j'étais avant de venir en France, c'est une église qui a été bâtie pour le Saint-Grégoire Palamas. Et l'architecte, celui qui a pensé cette église, c'était Horia Berna. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas Horia Berna, l'ancien directeur du musée de paysans à Bucarest. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il faut faire une église comme il faut. On va faire une église avec des petites fenêtres. Des petites fenêtres, tout petites fenêtres. Pourquoi? Parce que d'habitude, on voit des églises avec des beaux fenêtres. Non, des petites fenêtres. Pour que le monde extérieur ne pénètre pas dans nos prières. C'est très bien ici à Toulouse aussi. On n'a pas de fenêtres. Bon, on a un fond. Mais ici, il n'y a pas de fenêtres. C'est autre lumière qui vient, qui nous entoure, que la lumière qu'on est habitué toujours, la lumière de jour à jour. Malheureusement, celui qui a fait la construction, la boîte qui a fait la construction, il n'a pas respecté les indications de Horia Berna. Ils ont fait de grandes fenêtres. Et c'était la malheur de Horia Berna quand elle a vu. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez détruit l'intimité de la prière. L'intimité, quand l'âme, il est dans, pas obscurité, mais dans cette atmosphère mystique, si vous voulez, où elle peut entrer en soi-même et prier en soi-même. Il y a parmi vous qui viennent aux vêpres. Vous avez vu, on fait les vêpres dans une autre lumière, presque dans l'obscurité dans l'église. Et c'est un bon moment pour intérioriser notre prière, pour donner un peu plus de force à notre prière dans cette atmosphère. Donc, je m'arrête ici. Je vous conseille de lire l'évangile qu'on a lu aujourd'hui, toute la semaine. Donc, lisez la Bible, mais d'une manière priante, dans un état de prière. Il se trouve dans l'évangile selon Saint Marc, dans le Nouveau Testament, le chapitre 10. Vous allez trouver là-bas. Lisez et méditez ce qui signifie s'humilier, ce qui signifie servir les autres, ce qui signifie garder le silence en nous-mêmes, ce qui signifie trouver l'Église comme un hôpital. Et surtout, pensez, je dirais toute votre vie, que votre venue ici à l'Église est là un enjeu très important. C'est un défi pour vous, pour moi et pour tout le monde. Je répète comme j'ai commencé, c'est un jeu entre la vie et la mort. Entre l'éternité bonne et l'éternité mauvaise. Et il faut entrer un peu dans la manière dans laquelle Dieu voit les choses. On voit... Nous, les hommes, on voit les choses sur un terme très court, 15 années maximum, 20 années maximum. Dieu voit les choses pour l'éternité. C'est ici qu'il faut voir. Est-ce qu'on a cette manière de voir les choses pour l'éternité? Est-ce qu'on voit cette venue à l'Église pour l'éternité? Ou est-ce qu'on voit cette venue à l'Église seulement pour nos besoins immédiats? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les besoins immédiats, mais surtout chercher l'éternité et toutes les autres choses viendront après. Soyez sûrs de ça. Que Dieu nous bénisse. On va continuer la liturgie. Comme je vous ai dit la dernière fois, aujourd'hui c'est aussi la liturgie de Saint Basile le Grand. Donc ceux qui avaient le livre pour la liturgie, ce n'est pas la même aujourd'hui. Il y a des prières plus longues, plus belles en fait, mais plus profondes, si vous voulez. Plus profondes. C'est la dernière fois qu'on fait cette carême, la liturgie de Saint Basile, parce que pour la dimanche de Ramon, on va recommencer avec la liturgie de Saint Jean Chrysostome, que vous pouvez avoir tous dans les livres qu'on a sur la table là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et on prie ensemble, si tu peux, que Dieu nous bénisse. Amen.